Alors, on va encore prier avant d'ouvrir la parole ce matin. Seigneur, on te remercie pour ces beaux chants qui nous permettent d'élever nos cœurs vers toi, Seigneur, et t'adorer, te louer, te bénir, te remercier. Seigneur, nous t'aimons de tout cœur et nous te remercions pour ta souveraineté, ta toute-puissance dans nos vies, dans chacune de nos vies. Et Seigneur, nous venons tous et toutes avec des joies et des fardeaux que nous remettons à tes pieds. Et Seigneur, merci parce que toi, tu as connu les fardeaux aussi, Seigneur. Et nous te remercions parce que tu as conquis tous ces fardeaux, Seigneur, par ta résurrection. Et c'est ce que tu fais avec nous aussi. Et donc, nous te redemandons de nous bénir ce matin dans l'étude de ta parole et de nous encourager, Seigneur, parce que c'est toi qui es Dieu et c'est toi qui sais comment tout doit fonctionner, Seigneur. Donc, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, écoutez, comme vous le savez, nous sommes, enfin peut-être vous ne le savez pas, si vous êtes en train de nous rendre visite ce matin, on est dans une mini-série sur la divinité de Jésus-Christ. Et nous tentons de comprendre avec précision l'identité de Jésus-Christ. Alors c'est peut-être une drôle de chose à dire, on se dit, ouais, mais attends, voir, on aimerait comprendre exactement qui est Jésus. Donc c'est la question qu'on se pose, qui est Jésus? Et la question, est-ce que c'est important de le savoir? Est-ce que c'est vraiment important de savoir qui est Jésus? Bien, la réponse, bien sûr, est oui. Je l'ai dit la semaine dernière, mais je répète. Jésus, est-il une création de Dieu? Est-il une création de Dieu? A-t-il été créé par Dieu? Comme les témoins de Jéhovah l'affirment. Donc, n'est-il pas créateur? Est-il qu'une création divine, mais juste en dessous de Dieu? Première question. Ou bien, est-il le frère de Satan, comme l'affirment les Mormons? Ou bien est-il juste un prophète sans plus, comme le croient les musulmans? Ou bien est-il juste un homme bien, qui enseignait des bons principes moraux sans plus, comme l'affirment beaucoup de ce qu'on appelle les libéraux? Ou bien, Jésus est-il Dieu fait homme, Dieu incarné? Alors écoutez, c'est quand même important de savoir la réponse à cette question, parce que notre destin éternel en dépend. Ben oui, comme j'ai lu la semaine dernière aussi, dans Jean 3, 36, il est dit, « Celui qui croit au Fils, donc il faut comprendre qui est ce Fils, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc tout dépend de notre foi en ce Fils. Qui est ce Fils ? Voilà la question à laquelle nous essayons de répondre. Alors je trouve intéressant dans 2 Corinthiens 11, je vais dire à partir du verset 1, « Oh, c'est Paul qui écrit, il est en train de gronder les Corinthiens. » Vous savez que les Corinthiens, c'était une église à problème, comme vous le savez. « Oh, si vous pouviez, 2 Corinthiens 11, 1, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc il dit, écoutez, je vous aime, église, c'est moi qui vous a amené à Christ. Et ensuite, il dit au verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Pourquoi ? Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Il leur dit, mais écoutez, franchement, je vous ai apporté le vrai évangile, et là, vous êtes en train de vous faire avoir ou vous faire influencer par un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Et il dit verset 5, quand j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence, il est en train de leur dire, mais pourquoi est-ce que vous me comparez, moi, avec ces autres apôtres qui vous apportent un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile? Et au verset 13, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Tout ce qu'on entend de dire, c'est que l'identité de Jésus est vraiment importante. Vraiment importante. Qui est ce Jésus? Et il peut y avoir un vrai Jésus et un autre Jésus. Un vrai évangile et un autre évangile. Un vrai esprit et un autre esprit. Donc c'est très important que nous essayions de comprendre ça. Donc voici le but de cette semaine, la semaine dernière, de comprendre avec précision qui est Jésus. Nous, ici à l'EIG, nous affirmons sans réserve et sans honte que Jésus est nul autre que Dieu qui s'est fait homme, Dieu incarné. Alors la semaine dernière, nous avons fait un survol pour démontrer de manière générale les arguments clés qui démontrent la divinité de Jésus-Christ, comme quoi Jésus est Dieu fait chair. 5 lignes d'argumentation, je vais juste vous donner les grands points pour réviser si vous n'étiez pas là. Premièrement, la divinité de Jésus est démontrée par les citations explicites sur la divinité de Jésus-Christ. 2. La divinité de Jésus est démontrée par les attributs divins que Jésus possède, des qualités que seul Dieu peut posséder. 3. La divinité de Jésus est démontrée par les œuvres qu'il a accomplies, des œuvres que seul Dieu peut accomplir. 4. La divinité de Jésus est démontrée par ses noms divins. Et 5. La divinité de Jésus est démontrée par le fait qu'il a accepté d'être adoré, ce qui est réservé à Dieu seul. Alors, comme j'ai dit la semaine dernière, ça on a brossé ça généralement la semaine dernière, cette semaine j'aimerais me focaliser sur 1, 2, voire 3 ou 4 textes, mais avec précision, pour que vous compreniez comment ça marche, d'accord? Et j'aimerais, pour faciliter la tâche, me focaliser que sur l'évangile de Jean. Que sur l'évangile de Jean, qui est peut-être celui qui donne le plus de preuves simples et directes sur la divinité de Jésus. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais parcourir quelques-uns de ces textes que je trouve super, et je pense que vous allez les trouver vraiment fascinants. Alors, autre chose, je vais vous demander aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent que je le fais d'habitude. On va rentrer dans une sorte de classe de faculté de théologie. Donc, si vous voulez, avez toujours voulu savoir ce que c'était une faculté de théologie, aujourd'hui, on va rentrer dans une sorte de classe de faculté de théologie pour vous montrer comment on fait en fac pour analyser les trucs. D'accord? Alors tenez-vous, ça va être, j'espère, intéressant et j'espère que ça va être clair. Alors, le premier texte qu'on va voir, c'est le texte le plus clair, on ne peut pas faire plus, c'est Jean 1. Donc prenez vos Bibles et allez avec moi à Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Et je vais lire à partir du verset 1 pour nous plonger dans le texte. Jean 1 et le verset 1, je lis. Jean écrit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Écoutez bien le verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Alors avant de plonger dedans, j'aimerais avant tout remercier James March, qui est dans notre église. Je ne sais pas si tu es là aujourd'hui, James, tu es là? Alors, oui, il est là, tout derrière, d'accord? Moi, j'aimerais le remercier publiquement, parce qu'il m'a beaucoup aidé avec cette étude, parce que vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais il a fait une maîtrise de théologie, et il a fait une spécialisation en langue grecque. Il a terminé la faculté de théologie de Masters il y a juste 2 ans et demi, et moi aussi j'ai fait du grec, moi j'ai fait 2 ans de grec, mais il y a 33 ans de cela, d'accord? Alors mon grec, il n'est pas peut-être à la hauteur du sien, j'arrive quand même à lire les lettres, donc ça c'est pas mal, d'accord? Mais moi, le mien est rouillé, le sien, il est vraiment bien. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé et j'apprécie énormément son travail. Alors ces premiers 18 versets de Jean sont ce qu'on appelle le prologue, ou l'introduction si vous voulez. Il y a 2 grandes parties. Il y a premièrement ce qu'on appelle le logos, d'accord, qui est le nom attribué à Jésus-Christ, on va le voir. Et ensuite, il y a la partie sur Jean-Baptiste, les versets 5 à 15 à 34 si vous voulez. Et Jean est un petit peu différent des autres évangiles du fait qu'il commence son évangile pas de manière biographique ou historique, comme les autres, mais plutôt de manière théologique, voire philosophique. Il affirme tout simplement que Jésus, cette personne historique connue des hommes, est le fait ultime de l'univers. Le texte qui est probablement celui qui est le plus clair de toute la Bible sur la divinité de Jésus se trouve dans juste deux versets. Regardez le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ce sont, je dirais, peut-être les deux versets les plus clairs sur ce sujet, presque de toute la Bible, mais il y en a d'autres. Alors, il faut savoir que si ce texte est clair, peut-être plus clair que tous les autres concernant la divinité de Jésus-Christ, ceux qui nient la divinité de Jésus ont dû trouver des moyens pour faire dire à ce verset ce que eux pensent qu'ils ne devraient pas dire. Comme quoi Jésus, en fait, n'est pas Dieu. Que la parole n'est pas Dieu et que la parole qui n'est pas Dieu, donc, n'est pas devenue chair. Ils doivent pouvoir soutenir ça. Et c'est ce qu'on fait exactement, du moins essayer de faire, les témoins de Jéhovah. Ils ont réécrit ces versets pour qu'ils disent ce qu'ils disent. Et j'aimerais vous le montrer. D'accord ? Donc on va montrer des PowerPoint. Regardez le verset 1. Le verset 1 est celui-ci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, je pense, dans toutes vos Bibles, c'est probablement à peu près ça ce que ça dit, je pense. Maintenant, regardez ce que dit la Bible des témoins de Jéhovah. Et j'ai été vérifié, hein. Prochain. Voilà. Eux, ils disent, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était en Dieu, petit d. Vraiment, c'est exactement ce qu'il a dit. La note marginale dans leur Bible, un Dieu grec, théos, différent que ton théon, le Dieu, dans la même phrase. Alors, regardons ça, d'accord ? Classe de grec, on rentre dedans. Vous êtes d'accord ? Ça va être intéressant. Prochaine slide. Commençons avec « au commencement ». On va prendre phrase par phrase, d'accord ? Verset 1. « Au commencement était la parole ». Alors, déjà, « au commencement ». Alors, tout lecteur de Jean, surtout ceux qui connaissent un petit peu la Bible dans l'Ancien Testament, lisent cette phrase et tout de suite, ils pensent à quoi ? Genèse 1:1. C'est pas compliqué, on est d'accord, d'accord ? Genèse 1 qui dit quoi ? Au commencement, tiens, petit quand même parallèle, « Dieu créa les cieux et la terre ». Le nom de la Bible hébraïque était justement « au commencement ». Donc, question, à qui se réfère ce commencement dans Genèse 1:1 ? D'accord ? Quand il dit « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, qu'est-ce qu'il dit, Genèse 1:1 ? Il dit « au commencement, au moment où Dieu créa les cieux et la terre », logique, Dieu existait déjà, sinon il n'aurait pas pu créer les cieux et la terre, on est d'accord ? Donc ce « au commencement » décrit le fait que Dieu, à ce moment-là, créait les cieux et la terre, impliqué Dieu existait déjà avant il est éternel. Dans Jean 1:1, on lit « au commencement était la parole ». Alors qu'est-ce qu'il veut dire ce commencement ? Eh bien le verset 3 semble donner la raison, la réponse. « Toutes choses ont été faites par elle », donc cette parole, « et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle ». Donc on apprend, et ceci implique que la parole existait avant la création de toute chose, inclus avant la création du temps comme nous le connaissons, puisque c'est elle qui a créé toute chose. Hein ? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole a créé toute chose, qui implique que cette parole existait avant que les choses soient créées. Donc, dans Genèse 1, l'action de la création est décrite comme étant un fait au commencement, mais ici, c'est un être qui existait déjà au commencement, bon c'est en fait aussi dans Genèse 1:1, qui veut dire qu'il existait avant le commencement, c'est très important, d'accord ? Donc, « au commencement » se réfère à ce qui existait avant ce que nous connaissons comme étant existant. Je vous laisse digérer, d'accord ? Je vous donne un exemple. Proverbe 8, 23 décrit la personnification de la sagesse et dit, je cite, « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Donc on est en train de voir une situation où la parole existait au commencement et à un moment donné, ch'tac, tout ce qui a été créé, que ce qu'on connaît étant, comme étant créé, a été créé. Alors, ce n'est pas nouveau, vous connaissez déjà Jean 17, 5, où on voit cette préexistence de Jésus. Et maintenant, il dit, Jésus dit, « Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Donc là, Jésus est en train de dire, « Voilà, je vais remonter vers toi pour que je sois avec toi comme on l'était avant que le monde ait été créé. » Donc, préexistence de Christ. Ok, première phrase, alors on apprend qu'au commencement était la parole, d'accord ? Le mot « était » est intéressant. Le mot n'est pas « devint ». Donc au commencement, devint la parole. Non, au commencement, la parole était déjà, ça c'est important. Le verbe est un imparfait actif indicatif, troisième personne singulier du verbe « eimi » en grec. L'imparfait implique une description. Donc Jean ici décrit le logos comme existant déjà au commencement. Puisque Jean va faire un parallèle direct entre le logos et Dieu dans la suite du verset, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Puisque Dieu est éternel, il est logique que le logos soit aussi éternel. On continue. Regardez, au commencement était la parole. Alors Jean commence son évangile en utilisant le mot parole comme un titre christologique. Le mot parole est un mot très commun en grec, c'est le mot logos. Logos. Logos veut dire littéralement parler, un message ou bien tout simplement parole. Ce mot « logos » était utilisé de manière courante dans la littérature juive de la sagesse, ainsi qu'en philosophie grecque à l'époque, et surtout par les stoïciens. Alors je vous dis un mot sur les stoïciens, moi je ne connais pas grand-chose, d'accord ? Mais les stoïciens avaient un amour pour ce terme « logos ». La connaissance des mots, l'étymologie, constitue pour eux la base de leur réflexion philosophique sur le langage. Ils étaient persuadés que l'on devait connaître l'origine de tous les mots que nous employons pour converser convenablement. C'est dans l'activité de la raison, le logos, que les concepts prennent forme. Le logos est donc pour eux la raison d'être. En autre terme, on pourrait dire que le logos était un des concepts les plus purs et généraux pour décrire l'ultime intelligence, l'ultime raison, l'ultime volonté que nous on appellerait Dieu. C'était en somme leur façon de décrire Dieu. Ils utilisaient le terme logos. Alors vous posez la question, mais pourquoi est-ce que Jean a utilisé ce mot-là ? Au commencement était la parole, le logos. Pourquoi ce mot-là ? Surtout s'il va parler de Jésus-Christ juste après. Eh bien, car ses lecteurs connaissaient bien le mot que Jean utilisait. Il était familier pour ce public pour susciter l'intérêt. Il voulait susciter l'intérêt. Il voulait les amorcer quelque part dans la lecture de cet évangile. Donc, il utilise ce mot, mais attention, il utilise ce mot avec une nouvelle définition christologique pour annoncer l'évangile. Je vous donne un exemple. Ça, vous le connaissez, dans Acte 17. Vous vous rappelez, Paul, il arrive à Athènes. Et dans Acte 17, verset 22, Paul, il est debout devant l'aéropage et il dit ceci. « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Waouh, vous êtes très très religieux. Compliment. D'accord ? Verset 23, « Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, un dieu inconnu. » Il dit, « J'ai vu un autel avec un dieu inconnu écrit dessus. » À quoi il dit, je trouve super, « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Et là, il prêche l'évangile en leur disant, « Votre dieu inconnu, je vous le décris. » Verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples, etc. » Et il explique que c'est le Seigneur. Et ensuite, il parle aussi de la résurrection. Verset 31, et il dit, « Ce Dieu inconnu, que pour vous est un Dieu inconnu, moi je vous le proclame, c'est Jésus-Christ. » Donc il utilise ce Dieu inconnu comme un pont. Et c'est un peu ce que Jean fait ici. Il utilise le mot « logos » comme un pont. Alors, passons à la deuxième phrase. Maintenant, ça devient vraiment intéressant. D'accord ? Regardez-moi. Au commencement était la parole était avec Dieu. Prochain slide, d'accord? Tu peux aller au prochain slide. Ah voilà, tout tourne en bleu maintenant, d'accord? La parole était avec Dieu. Alors je vais vous montrer dans quelques minutes en grec, comme ça vous le verrez, d'accord? La parole était avec Dieu. En grec, c'est hos, ha logos hen pros ton theon. Bon, ça ne veut rien dire, mais c'est ce que ça dit, d'accord? Alors le mot avec est intéressant, parce qu'il dit que la parole, donc au commencement était la parole était avec Dieu. Alors ce mot avec est intéressant. Dans Marc 6, 3, on a le mot utilisé de la même manière. Il parle de Jésus et ses frères, c'est intéressant. Marc 6, 3. N'est-ce pas, alors on pose la question, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon et ses sœurs, ne sont-ils pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Parmi nous, avec nous, même mot. Avec nous, même mot. Une association très proche. Jésus est un égal, si vous voulez, à ses frères et sœurs, aux yeux des habitants, mais différent de ses frères et sœurs. Mais il est avec eux. Donc ici, c'est pareil. Quand le texte dit « la parole était avec Dieu », cette phrase montre que la parole était différente que Dieu, mais avec Dieu, dans la présence même de Dieu. Alors notons aussi que la parole n'est pas juste un principe impersonnel, mais une personnalité vivante. C'est très important. Quand il dit que la parole est avec Dieu, alors nous qui avons l'habitude d'une Bible, on se dit « Ah bon, alors peut-être que Dieu avait une Bible. » Ah non, 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 non. Il est en train de dire quoi? La parole était avec Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Eh bien, cette parole, elle est intelligente. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, premièrement, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, elle est Dieu. On va le voir dans deux secondes. Donc, Dieu est intelligent, la parole est Dieu, donc la parole est intelligente. Deuxième voie au verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Donc cette parole est vivante parce qu'elle crée. Et troisième chose, au verset 4, elle donne le pouvoir de devenir enfant. 14, au verset 4, elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc elle possède la vie et la distribue aux hommes, cette parole. Au verset 14, 12, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et au verset 14, la parole devient chair. Donc ce qu'on est en train de constater pour l'instant dans cette deuxième phrase, c'est que la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, cette parole est quelque chose d'intelligent, une entité intelligente. Donc ce qu'on apprend, c'est que au commencement, la parole existait déjà, et que cette parole intelligente était avec Dieu. Pour l'instant, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Parce que c'est rien de radical, c'est ce que le texte dit. Ah, mais c'est la prochaine phrase. La prochaine phrase, regardez. La parole était Dieu. Ça, c'est la phrase. C'est la phrase. Écoutez ici, mes amis, cette phrase, c'est la phrase de l'immense débat. Surtout qui a amené sur la table les témoins de Jéhovah. La prochaine fois que les témoins de Jéhovah frappe chez vous, demandez-leur, juste pour être sûr que vous dites, ouais, est-ce que John il raconte n'importe quoi? Vous leur demandez, est-ce que je peux voir dans votre Bible Jean 1:1? D'accord? Et voilà comment ça va être réduit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Mais nous, dans nos Bibles, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, est-ce que c'est une grande différence ou pas, ou une petite subtilité de rien du tout? Alors, prochaine photo. Ah, trop bien. Alors, j'ai pas mis avec des lettres grecques, j'ai mis à sa sauce. Hein. C'est moi qui ai mis le grec en français pour essayer de plus ou moins y comprendre quelque chose. D'accord? Mais je voulais vous montrer, c'est très important. Donc voici la phrase en grec avec le français, d'accord? Alors, au commencement était la parole, donc « hen arkein hen hologos »,« halogos ». La parole était avec Dieu, « halogos hen pros ton theon ». Et Dieu était la parole, « theos hen has logos ». C'est clair, non? Regardez, je vais vous montrer. D'accord. Vous voyez que le premier mot pour Dieu, en grec, un article devant. ton. Vous voyez? Mais le deuxième mot, troisième ligne pour Dieu, n'a pas l'article devant. Donc on a deux mots pour Dieu. Le premier a l'article devant, l'autre n'a pas l'article devant. Voici la grande question. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait traduire ces deux mots pareil, Dieu? Ou est-ce que le fait que le premier a l'article et le deuxième n'a pas l'article, on devrait traduire le premier Dieu et le deuxième un Dieu? Voilà la question. Voilà la question. Vous dites, ouais, mais John, est-ce que c'est vraiment important? Ben, plutôt que c'est important. Écoutez, combien de mots dans la parole de Dieu sont inspirés? Tous. Chaque mot. Donc c'est important. Alors peut-être, vous savez, nous on lit notre Bible pour le culte personnel, un petit peu comme ça, des grandes lignes, mais de temps en temps, il faut s'arrêter, parce que là, il y a toute une secte qui est basée quelque part sur un mot, sur un article. Donc c'est quand même hyper important. Alors il faut savoir que la Bible des témoins de Jéhovah traduit cette phrase, la parole était un Dieu. Toutes les autres Bibles que nous avons traduit le mot par était Dieu. Donc les témoins de Jéhovah justifient leur traduction en expliquant que le premier mot pour Dieu contient l'article, tandis que le deuxième omet l'article. Ils affirment que lorsqu'un mot singulier ne contient pas d'article défini placé devant le verbe et qu'il décrit toujours la qualité d'une personne. Donc, ils concluent que ce verset ne dit pas que Jésus est le même que Dieu avec qui il est, mais que la parole Jésus est divin ou divine comme Dieu mais pas Dieu. Comme Dieu, mais pas Dieu. Il est un Dieu, petit dé. Ils enseignent que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il a une qualité divine. Il est un petit dé Dieu. Jésus est donc une création de Dieu, la plus haute de ses créations, mais pas Dieu créateur. Il est juste en dessous de Dieu, il n'est pas Dieu comme l'est Jéhovah. Et la preuve concluante pour eux, c'est le fait que le texte dit que la parole était avec Dieu. Donc il conclut... Elle ne peut pas être Dieu en même temps qu'être avec Dieu. Alors, regardons ceci de plus près. Là, on rentre dans un clash de factéologie, d'accord? C'est important. Alors, quels sont les problèmes avec l'argumentation des témoins de Jéhovah? Premièrement, écoutez, ça, je crois que vous avez déjà pensé à ça, c'est le problème du polythéisme. Parce que l'interprétation des témoins de Jéhovah n'est rien d'autre que l'affirmation du polythéisme. Ça veut dire quoi? Que... Il y a un Dieu qui a Dieu et qui a un petit Dieu. Ça veut dire quoi ça, franchement? Pour eux, ils disent qu'il y a le Dieu Jéhovah, mais aussi un plus petit Dieu. La parole était Dieu et la parole était un Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La Bible est claire. Combien de dieux y a-t-il? Un Dieu. Un Dieu. Deutéronome 6, vous connaissez? 4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Deutéronome 32, 39, Ésaïe 43, 10, Ésaïe 48, 44, 8, Ésaïe 45, 5, tous ces textes disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, leur propre interprétation est un problème, parce que ça veut dire qu'il y a un vrai Dieu et ensuite un petit Dieu. Polythéisme. Deuxième problème, la vérité sur les articles. Alors écoutez, c'est un peu grammatical, mais je vous le lis. Est-ce que le mot « Dieu » sans article, donc le deuxième Dieu, doit forcément se référer à un être moindre que Dieu Jéhovah? Est-ce que le fait qu'il n'y a pas d'article dedans minimise ou diminue l'identité de ce Dieu-là? Non. Il faut savoir que le mot « Dieu » sans article est utilisé de nombreuses fois dans le Nouveau Testament avec la même construction grammaticale précise de Jean 1.1. Dans le dictionnaire de grammaire grec Artin & Gingrich, le plus utilisé dans la fac de théologie, il donne des exemples. Je vous en donne un, je vous en donne quelques-uns en fait. Luc 20.38, d'accord? Luc 20.38 dit ceci, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ». Alors en fait, il n'y a qu'un Dieu dans la phrase d'origine. Dieu n'est pas des morts, mais des vivants. Eh bien, ce mot Dieu n'a pas l'article devant. Et pourtant, personne va conclure qu'il parle d'un petit Dieu. Dieu sans article devant un verbe décrit clairement Dieu Jéhovah et non pas un Dieu. On ne lit pas ce verset en disant « Un Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ». On ne va pas dire ça, on va dire que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ben, ce Dieu-là n'a pas l'article. Et pourtant, il est clair dans cette phrase que c'est Dieu Jéhovah. Walter Martin prend plein d'autres exemples bibliques où l'article n'est pas présent devant Dieu. Alors, on va passer à la prochaine, c'est vraiment intéressant, d'accord ? Il applique la règle grammaticale des témoins de Jéhovah pour voir ce que cela donnerait dans d'autres passages. Si on applique la règle des témoins de Jéhovah à ces autres passages où la construction grecque est pareille, voici ce que ça veut dire. Par exemple, dans Matthieu 5, 9, voici ce qu'il faudrait le lire si on applique la règle des témoins de Jéhovah. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils d'un Dieu. Ça veut dire quoi ça ? Mais non, ils seront appelés fils de Dieu. Jean 1, 6, parlant de Jean-Baptiste. Voici comment les témoins de Jéhovah devraient lire cette phrase. Il y eut un homme envoyé d'un Dieu, son nom était Jean. Mais non, c'est pas comme ça qu'on lit cette phrase. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Pourtant, ce Dieu n'a pas l'article devant. Jean 1,8. Personne n'a jamais vu un Dieu. Mais non, on dit personne n'a jamais vu Dieu. Luc 2,40, parlant de Jésus. Or, l'enfant croissait, se fortifiait. Il était rempli de sagesse, de grâce. D'un Dieu était sur lui. Et la grâce d'un Dieu était sur lui. Ça veut dire quoi ça ? Romains 1,7, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés d'un Dieu appelé à être saints par vocation. Vous voyez, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on applique la règle grammaticale adoptée par les témoins de Jéhovah, eh bien les autres versets qui ont la même règle, il n'y a plus aucun sens. Le but de Martin est de démontrer que les auteurs du Nouveau Testament fréquemment écrivaient le nom de Dieu sans article et pourtant leur intention était clairement de parler de Dieu Jéhovah. Donc Jean 1,1, basé sur les autres exemples du Nouveau Testament, devrait être traduit « La parole était avec Dieu, la parole était Dieu ». Tu peux retourner peut-être à la slide juste avant, comme ça on a encore le... Tu peux aller en arrière dans le slide, ouais, en arrière. Non, encore. Non, backwards. Tac, voilà, on peut rester là. Troisième problème avec leur argument, c'est la christologie de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean abonde d'autres exemples de la divinité de Jésus. On va les voir dans quelques minutes. Aïe, je ne vois même pas l'heure passer. Mais il serait donc surprenant de voir Jean décrire Jésus dans Jean 1,1 comme un Dieu si le reste de l'évangile le présente comme Dieu. D'accord ? Je vous donne peut-être un exemple, je ne sais pas ce qu'on va tout voir aujourd'hui, mais dans Jean 10 par exemple, Jésus dit « Moi et mon Père nous sommes un », les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Même ses ennemis ont parfaitement compris qu'il se prenait pour Dieu. Il y a plein d'exemples comme ça dans l'évangile de Jean par rapport à cela. Par exemple, dans Jean 5, 23, on peut encore lire. Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis à cause de cela. » Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc ses ennemis comprennent parfaitement ce qu'il est en train de prétendre. Et encore dans Jean 8, 58, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Pourquoi est-ce qu'on veut le lapider ? Parce que selon eux, il blasphémait. Donc, la christologie dans l'évangile de Jean nous montre que l'argumentation ne tient pas la route, celle des témoins de Jéhovah. Il y a aussi l'incohérence de la traduction des témoins de Jéhovah. Le nom Dieu sans article se trouve 282 fois dans le Nouveau Testament. Dans 16 de ces endroits, les témoins de Jéhovah le traduisent un Dieu, ou Dieu avec un petit d, ou divin. Mais dans les autres 266 fois, ils traduisent le mot Dieu comme nous le traduisons. Pour ne pas Pourquoi ne pas avoir traduit chaque occurrence du mot de la même manière? Parce qu'ils doivent changer la parole de Dieu pour pouvoir soutenir leur doctrine. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Puis encore une cinquième raison pour laquelle leur traduction ne tient pas la route, une bonne compréhension du mot Dieu. Le mot Dieu dans Jean 1.1 est considéré qualitatif. Il décrit la qualité du mot parole. La parole est donc Dieu, qui veut dire que la parole est déité. Autrement dit, la parole partageait la même nature que Dieu. Ce que Dieu était, la parole était. La parole partageait la même essence que Dieu. La nature était identique. Regardez, c'est ce qu'il dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bon, en grec, c'est Dieu était la parole. Donc c'est exactement pareil. La même identité, la même nature. Leur nature était identique. On pourrait utiliser le mot divin, mais on ne l'utilise pas parce qu'en français, le mot divin est moins fort que divinité. En français, on peut dire que dîner était divin. Ah, ton dîner était divin ce soir. Mais on ne va jamais dire, ah, ton dîner était divinité. Ça, on ne va pas le dire, d'accord? Donc, c'est mieux d'utiliser divinité que le mot divin. Les témoins de Jéhovah utilisent le mot divin, mais ils le rapetissent ce mot. C'est pour ça, vous voyez, ce qu'on est en train de dire, c'est que le choix de mots est très important. Et la définition des mots qu'on utilise est très importante. La parole était donc divinité. La construction grammaticale est ingénieuse ici, car Jean exprime de la manière la plus concise possible que la parole était bel et bien Dieu, mais en même temps différente que le Père. C'est ça qui est intéressant. Regardez, au commencement était la parole était avec Dieu, donc la parole était avec Dieu, donc pas Dieu, mais la parole était Dieu. Donc elle était Dieu sans être Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est la doctrine de la Trinité. Jésus est 100% Dieu, mais il est différent du Père. C'est exactement ce que le verset 1 nous dit. John White dit, je le cite, « Si Jean avait placé l'article devant Théos, se référant à Christ, il serait en train de faire Dieu et la parole parfaitement égaux avec deux termes qui seraient interchangeables. Mais Jean fait très attention à différencier entre les deux termes ici, comme il le fait dans le reste de l'évangile. Il souligne la différence entre le Père et le Fils. Si le mot Théos et le mot Logos avaient les deux été précédés d'un article, alors la signification aurait fait que la parole serait totalement identique avec Dieu, ce qui est impossible si la parole était avec Dieu. Donc, la parole était bel et bien Dieu, mais avec Dieu en même temps. Pour marquer cette divinité certaine de la parole, Wist, un autre commentateur, lui traduit la phrase comme ceci, « La parole était divinité absolue. » Alors, une fois qu'on a compris ça, maintenant je vais juste parcourir les versets, regardez, maintenant qu'on a compris ça. Jean 1.1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc cette parole qui était Dieu était avec Dieu et au commencement, dans l'éternité. Toutes choses ont été faites par elle. Par cette parole qui est Dieu mais différente que Dieu, par le Fils donc. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. C'est clair. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Mais il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et c'est intéressant, ça ne vous trouvez pas? Et le monde ne l'a point connue. Donc, le monde qui a été créé par elle, eh bien, elle est venue dans ce monde, mais le monde l'a rejetée. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, si vous êtes ici ce matin et vous connaissez Jésus-Christ personnellement comme Sauveur et Seigneur, vous pouvez dire « Amen ». Enfin, vous n'êtes pas obligé de dire amen, mais disons, dans votre cœur, d'accord. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc cette lumière de la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors là, il y a un miracle qui se passe. Lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, on a déjà été nés du sang. Et de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, oui, quand tu reçois cette lumière qui est cette parole, qui est donc le Fils, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens enfant de Dieu et tu nais de Dieu. tu nais de nouveau, Jean 3. Regardez verset 14 maintenant. Là, Jean, il dit, alors, si c'est pas clair, j'aimerais quand même juste rajouter ça pour vous éclaircir les trucs un peu. Verset 14. Et la parole. Alors, c'est qui la parole? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais la parole était Dieu. Ah! Cette parole qui était avec Dieu, mais aussi Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Verset 14. La parole a été faite chair. Attends, voilà. Ça pourrait être qui, ça? Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Jean écrit, il a connu Christ personnellement, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et plus tard, quand Jésus dira, je suis fils de Dieu, on le lapidera parce qu'ils ont bien compris. Enfin, ils ont essayé de le lapider parce qu'ils ont bien compris qu'il se prétendait être Dieu. Mais oui. Ah. Écoutez, je crois que c'est la première fois que j'ai fait un verset dans un message. Mais qu'il est important ce verset. Qu'il est important. Je vais juste lire les autres textes, on va pas les examiner, j'ai pas le temps, je les ai déjà lus, mais je vais les lire quand même. C'était les textes que j'allais vous montrer. Jean 5. Jean 5, 17. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alors pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Écoutez, mon Père agit, mais moi aussi j'agis. Dans notre culture, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour eux, ça veut dire grand-chose. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, l'histoire juste avant, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Mais regardez la suite, c'est génial. Contexte, c'est tout hein, dans la Bible. Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité. Alors quand il dit ça, il dit, écoutez vraiment bien ce que je veux dire, parce que ce que je veux dire, c'est vraiment important. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Attendez voir. Tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi. Ou bien c'est gonflé, ou bien c'est vrai. D'accord? Il continue. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Il lui montre des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous voyez dans que vous soyez dans l'étonnement. Comme le Père, écoutez bien, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Attendez voir. Le Fils donne la vie à qui il veut. Qui donne la vie? Le Père. Est-ce qu'un non-Dieu ou un petit Dieu peut donner la vie? Verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous, écoutez, tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Donc, tu veux honorer le Père, tu dois honorer le Fils. Kiff, kiff. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre solution, c'est Jésus qui dit au verset 23. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 8, 58, je l'ai lu tout à l'heure, je relis vite. Verset 56, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, Jésus dit. Hein. Et il l'a vu, il s'est réjoui. Donc il dit, Abraham parlait du jour où je viendrai, moi, en tant que Messie. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Bon, pour nous, on se dit, ah bon, d'accord, c'est intéressant, mais pour y penser à quoi? Exode 3, 14, où Dieu se présente comme étant « Je suis à Moïse ». Et ça, c'était un passage clé. Et là, c'est intéressant que la traduction grecque de la Bible hébreu traduit Exode 3, 14 comme « Je suis », égoïmi en grec. C'était clair pour ces gens. Lorsque Jésus dit ici « Je suis », il faisait un lien direct avec Exode. Il était en train de dire « Je suis exactement comme le Père est ». Celui qui s'est révélé à Moïse dans Exode 3. Et là-dessus, ils prirent des pierres, verset 59, pour jeter contre lui. Pourquoi ? Blasphème, blasphème, blasphème. Voilà ce qu'ils disent. T'es un blasphémateur. Mais il sortit du temple. Regardez encore Jean 10, 30. Encore deux minutes, puis c'est fini. D'accord? Donc il dit au verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour eux, ça veut dire beaucoup. Verset 31, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Regardez la suite. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous voyez, quand Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un, c'est très différent que de dire, vous savez, mon épouse et moi, nous sommes un devant le Seigneur, c'est vrai. C'est ce que Matthieu 19 dit. Mais on est en quoi? On est un, bien sûr, dans sa vue, mais on n'est pas un. On est un en but, on est un en mariage, en objectif de vie. Oui, d'accord. Mais c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, oui, écoutez, là, moi, j'aime Dieu, et Dieu et moi, on a les mêmes objectifs dans la vie. Non. Il n'aurait pas lapidé pour ça. Il aurait dit, oh, mais c'est beau. Ça, c'est beau. Non, ici, ils disent, je suis un, différent. Je suis de la même nature de mon Père. Je suis divinité. Et là, ils disent, non, là, tu blasphèmes. Ils essaient de le lapider. Et ils ont compris. Tu te fais Dieu. Très différent. Allez, dernier passage, Jean 20, regardez, vous le connaissez trop bien ce petit texte, on l'a vu la semaine dernière. Jésus est ressuscité, il apparaît à Thomas, vous vous rappelez? 8 jours après, verset 26, Jean 20, les disciples de Jésus étaient à nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt ». Et il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, vous savez ce qu'ils disent, les témoins de Jéhovah sur cela? Ah oui, ben alors là, Thomas, il a vu Jésus, et il était tellement surpris qu'il a dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non mais franchement, d'accord, ok. Si vous voulez croire ça, d'accord. D'autres disent, il était tellement surpris par la résurrection de Jésus devant lui, il a dit, ah, écoute, alors Jésus, j'ai l'impression que t'es comme un dieu. Surprise, t'es comme un dieu, petit dé. Hein. Troisième option, Thomas faisait une exclamation émotionnelle dirigée à Dieu au travers de Jésus. Vraiment. Écoutez, s'ils avaient été simplement dire « Oh mon Dieu !» Regardez, Jésus n'aurait pas dit la suite. Verset 29, Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux celui qui n'a pas vu et qui ont cru. » Non, ça aurait été du blasphème. Ça aurait été de prendre le nom de Dieu en vain. Jésus l'aurait corrigé, il n'a pas corrigé. Il a dit « Ah, chapeau, c'est très bien. C'est très très bien ce que tu viens de dire. » Et de dire que « Ah, mais je croyais que tu étais un Dieu. » Ben, Jésus l'aurait corrigé aussi, c'est ridicule. C'est intéressant, le psaume 35, 23 utilise la même phrase, « Mon Dieu et mon Seigneur de Yahvé ». Est-ce que Thomas était en train de citer le psaume 35, 23? Il a vu Jésus ressuscité, il a dit, « Oh, mon Seigneur et mon Dieu !» Et dans sa tête, il citait psaume 35, 23. Il faisait un parallèle parfait avec Dieu et Jésus. Mes amis, on a vraiment fait du détail aujourd'hui. C'est important. Écoutez bien 2 Corinthiens 11, 3, ce que je vous ai lu tout à l'heure. « Car si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus que celui que nous vous prêchez, que nous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien, mais là il les gronde. Nous devons être précis sur ce que nous croyons. » Et Jean 1 et ses autres textes, Jean 5, Jean 8, Jean 10, Jean 20, sont des textes précis. Maintenant, vous êtes armés. Alors, la prochaine fois que tes témoins de Jéhovah viennent chez vous, dégainez le message. Amen. Seigneur, voilà, ils ont été un petit peu longs aujourd'hui, mais nous te remercions, Seigneur. Merci pour la parole de Dieu qui est si précise. Et Seigneur, on a l'impression qu'on n'a que simplement effleuré ces versets. Mais Seigneur, voilà, je te prie que ça n'a pas été laborieux ce matin pour chacun et chacune ici qui n'ont peut-être pas l'habitude de rentrer dans cette grammaire. Mais Seigneur, voilà, tu nous as donné la parole de Dieu. Elle est inspirée chaque mot, chaque lettre, Seigneur. Et nous te remercions que nous pouvons décortiquer la parole de Dieu et en sortir ce qui est vrai. Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons, nous te prions, Seigneur, nous t'honorons. C'est toi qui vas nous juger. C'est toi qui nous sauves, Seigneur. Nous savons que dans l'Apocalypse, ce sont les anges qui t'adorent parce que tu es Dieu. Et Seigneur, oui, tu es devenu un homme parce que tu nous as aimés, Seigneur. Et nous qui t'avons offensé par notre péché, la seule manière qu'on pouvait te pardonner, c'est par Dieu. Et donc tu es devenu un homme pour prendre sur toi notre péché et nous donner ta justice. Seigneur, nous te louons, toi Jésus, de tout notre cœur. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Et Amen.